mais si on prend ma bibliographie, qui doit y avoir entre 20 et 25 fictions, j'ai pas dû écrire, j'ai dû écrire moins de 10 polars, quoi.
Voilà, ouais. Donc une vérité rétablie.
Voilà, non, oui, j'ai écrit des polars, j'ai été publié dans la série noire, oui, ça c'est vrai, mais sur l'ensemble de ma bibliographie, il y a plus de romans, ce qu'on appelle blancs, hein, par opposition à noir, polar, qu'autre chose. Voilà.
Alors, pour parler quand même un peu des polars, puisqu'on est à Polar-sur-Loire, désolé. Le dernier date quand même de l'année dernière, si je suis bien renseignée, Personne ne court plus vite qu'une balle.
Exactement.
Sorti chez l'Archipel.
Ouais.
Un petit mot sur le roman pour le.
Alors, le Personne ne court plus vite qu'une balle et un polar. Alors, chaque fois, dans mes polars, on part surtout d'un thème. Et moi, je travaille essentiellement sur tout ce qui est délinquance économique et financière. Moi, j'écris pas de thriller. Il y a pas de tueur, il y a pas de violeur, il y a pas de. C'est pas gore. Personne ne court plus vite qu'une balle. C'est autour de ce que j'appelle le pseudo-commerce équitable. C'est celui-là est un peu différent des autres. Les autres sont construits tous de la même façon, c'est-à-dire sur trois niveaux d'histoire. C'est-à-dire qu'il y a trois histoires qui se croisent dans le livre et qui se rejoignent à la fin. Personne ne court plus vite qu'une balle. Celui-là est linéaire. Il y a une seule histoire, mais c'est une histoire, c'est une course autour du monde derrière un paquet d'oseilles, quoi. Voilà. Course agitée, puisque on part d'un endroit qu'on retrouve dans beaucoup de mes livres, c'est-à-dire on part de Louisiane. Il y a un tiers du livre qui se passe en Louisiane. Après, on part au Vietnam. Tout ça derrière des élevages de crevettes. Et ça se termine en France. Voilà.
D'accord.
On visite trois continents.
Alors, on visite... Il y a des personnages quand même qui font le fil, en fait, dans ces trois histoires.
Moi, j'ai un enquêteur récurrent dans mes polars qui s'appelle Victor Boudreau, qui est une sorte de géant, ancien lanceur de marteaux. Il est migraineux, donc il ne faut pas lui courir sur le haricot quand il a la migraine. Et j'en connais un rayon sur la migraine. Il est spécialisé dans les affaires économiques. Donc là, il est appelé par une famille dont le fils s'est suicidé, le fils musicien s'est suicidé à la Nouvelle-Orléans. Les parents ne croient pas que leur fils se soit suicidé et pensent qu'il a été assassiné. Donc ils chargent Victor d'enquêter sur la mort de leur fils. Et de là, on va partir dans une bien très loin de la musique, puisque on va découvrir que le fils, en fait, était un affairiste marron. Et voilà.
Et tout le monde qui va avec.
Mais bon, c'est un. Les autres polars avec cet enquêteur sont très, très province française, notable, arrangement entre amis. Le premier parle de la spéculation immobilière en centre-ville, le deuxième du trafic de pierres précieuses, le troisième qui s'appelle Avis d'obsèques et autour des spoliations d'entreprises à la Libération, qui est basé lui sur une vraie base historique avec des documents que j'ai réussi à obtenir de la Bibliothèque nationale de France, documents qui étaient classés. Inconsultable jusqu'à ce que j'aille les demander et que je fasse une demande administrative de déclassement de documents.
Donc vous faites des enquêtes avant d'écrire les romans, en tout cas ceux dont vous parlez là.
Journalisme d'investigation un peu.
Oui, j'ai fait du journalisme d'investigation pendant assez longtemps. Pour ce qui concerne Avis d'obsèques, en fait, tout ça est parti d'une histoire que m'a raconté un vieux monsieur. Qui m'a dit avoir été témoin de certains faits à la Libération. Il était très jeune, mais il m'a dit, moi j'étais là, j'ai vu ça. Et il m'a dit, là-dessus, il existe des documents. Il y a eu des documents rédigés. J'ai cherché ces documents, je les ai trouvés à la BNF. Ils n'étaient pas consultables. Et donc, je la fais courte,
ouais.
À la suite d'un processus d'un processus administratif, j'ai réussi à consulter ces documents. Il se trouve que je suis aussi donateur à la BNF, ce qui a certainement facilité les choses, mm-hmm. parce que quand j'ai fait la demande administrative, on m'a laissé très peu d'espoir de pouvoir les consulter.
Mm, d'accord. Et là, du coup, dans ce polar, personne ne court plus vite qu'une balle. Changement de décor, on va en Louisiane, qui est la plus française, la partie la plus française des États-Unis. Mais...
Alors, il se trouve que je connais bien la Louisiane pour y avoir séjourné longtemps. J'ai une bourse d'écrivain en Louisiane.
D'accord.
Donc, c'est un pays que j'adore, où je repars bientôt d'ailleurs. Et dans Avis d'obsèques, je parle de la Nouvelle-Orléans post-Katrina, mais je parle de la démolition et de la reconstruction, par exemple. Dans celui-là, j'ai emmené le lecteur beaucoup plus loin, dans la Louisiane vraiment sauvage, qui est le coin des pêcheurs de crevettes, qui sont surtout des gens d'origine vietnamienne. C'est des Vietnamiens qui sont arrivés après 75 aux États-Unis. Et comme ils étaient pêcheurs de crevettes au Vietnam, ils sont redevenus pêcheurs de crevettes
en
Louisiane. Comme d'autres Vietnamiens qui étaient agriculteurs, comme les Hmong, qui vivaient à la limite du Vietnam et du Laos, sur les hauts plateaux. Et les Hmong étaient agriculteurs, maraîchers, et ils sont devenus agriculteurs, maraîchers en Californie, dans le Montana. Voilà. Et donc, on est dans cette Louisiane vraiment où je suis allé me balader quelques fois. On n'est pas toujours le bienvenu, c'est raide.
Ah
ouais.
Hein. Ah oui,
c'est
ouais,
quand
ouais,
même assez raide.
Ça me fait penser à la première saison de True Detective qui montre
une
Louisiane assez glauque.
Je connais ce coin. Et il faut dire qu'il y a une assez forte consanguinité quand
c'est
même. Il y a un taux d'alcoolisme et de défonce important. Et je me souviens, j'avais voulu faire le malin, c'est-à-dire j'avais voulu aller à Lafayette, mais sans prendre l'autoroute et en prenant que les petites routes. Et il se trouve qu'il y a des canaux à pétrolier. Enfin, c'est difficile. Il y a des digues gigantesques. Mmh. Et la route, elle est d'un côté de la digue. On ne peut pas traverser, quoi. Donc, je me suis retrouvé bloqué en essayant de demander ma route à des autochtones. Et bon, quand on s'arrête dans... On ne peut même pas parler de bled, quoi. Trois maisons, deux mecs assis devant chez eux. On demande sa route. Le mec ne répond pas. Et puis, le seul geste qu'il fait, c'est... laisser tomber son bras droit qui est juste à la hauteur du fusil à canoncier qui est devant chez lui.
Engageant.
Non, c'est ambiance.
C'est un endroit à visiter.
Ouais, en tout cas, ça a l'air d'être une super matière à roman et en particulier de polar.
Après, j'ai passé deux mois au Vietnam, effectivement, où j'étais passionné par la vie économique et sociale de ce pays, par son explosion démographique. Son explosion économique. J'ai passé deux mois pour ce livre aussi. Ouais.
Alors, pour Anne, une question.
Oui, pour clôturer, à moins que tu veuilles.
Alors, je voulais juste dire deux mots de Jim Morrison et le Diable Boiteux, puisque je sais qu'il est sur le salon, puis c'est quand même ton dernier. C'est une fausse biographie.
Non, absolument pas. On appelle ça une exofiction. C'est un tout nouveau mot. C'est-à-dire, c'est un roman. Basé sur une histoire vraie, une histoire qui tient en peu de choses. On sait que Jim Morrison et Gene Vincent ont été amis pendant les deux dernières années de leur vie, qu'ils se sont vus en gros à quatre reprises, ça fait pas beaucoup en deux ans. En partant de cette amitié qui est quasiment anecdotique, j'ai écrit un roman. Mais la part de fiction, même si... certains cherchent à savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. La part de fiction est extrêmement importante. Quoi.
C'est une extrapolation.
Ah oui, moi, j'y étais pas. Moi, je l'ai fait rouler dans le désert de la mort, s'arrêter dans des trucs et tout.
Et c'est ça qui est marrant, c'est de partir d'un truc très bénin ou d'une information toute petite et puis
un roman. J'ai trouvé ça vraiment très agréable à écrire. Je me suis surtout gardé de ne pas relire de bio des deux, parce que effectivement, dans mon bureau, il y a une bio de Gene Vincent, il y a deux bio de Jim Morrison. J'ai surtout pris garde à pas les relire. J'ai établi une chronologie. J'ai établi une chronologie des événements américains entre ces deux dates, c'est-à-dire entre décembre 68 et octobre 71. C'est tout. Et d'ailleurs, à la fin du livre, j'ai donné les sources documentaires du livre. Les sources documentaires, elles sont quand même assez faibles, puisque je me suis servi d'une interview de Jim Morrison au Los Angeles Free Press en 1971, c'est-à-dire une sorte de fanzine. Voilà, un fanzine tiré à la Ronéo, quoi. Je me suis servi d'une interview de son garde du corps, interview qui est dans un argot américain, franchement, très difficile à comprendre. J'ai demandé à un copain traducteur de m'aider. Il y a des mots, parce que c'est de l'argot d'époque. Il y a des mots, 35 ans plus tard. Mon copain m'a dit, moi,
on les comprend plus. Ouais.
Aujourd'hui, je sais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Comme en plus, ils étaient bourrés et défoncés à longueur de temps. Ils nommaient des choses et puis ça devenait. Voilà, ils appellent. Voilà, ils donnent un nom à quelque chose. Ça devient un mythe. Ça revient dans la conversation, etc., etc. Donc je me suis servi de ça, je me suis servi de deux articles fleuves que j'avais écrits moi-même dans Best sur Gene Vincent, ce qui fait que je n'avais pas besoin de relire sa bio, que sa bio je la connais en gros par cœur. Et je me suis servi, enfin si on veut dire de façon très très anecdotique, du film que Jim Morrison avait réalisé pour son diplôme de deuxième année de cinéma, c'est-à-dire une sorte de documentaire muet. Il n'y a même pas de son. Aujourd'hui, on le trouve avec de la musique des Doors derrière. Mais à l'époque, il est muet, quoi. C'est en noir et blanc.
Caméra voilà. Fixe
Non, pas caméra...
Un truc expérimental.
Oui, c'est du cinéma. Ouais, en gros, le film...
Un peu genre ce que faisait Andy Warhol.
Ah oui, ou non, mais c'est beaucoup plus simple. Là, en gros, ça dure 50 minutes. Pendant 25 minutes, on voit Jim Morrison marcher dans un torrent et des cascades. Quoi. Voilà, il descend, il marche, il tombe dans l'eau, il se relève. Voilà. Et puis, pendant 25 minutes, il y a Jim Morrison au volant d'une voiture et qui roule dans Los Angeles. C'est tout.
Et ça t'a inspiré pour...
Non. Non, mais comme je l'ai regardé, je l'ai cité. Ouais. Voilà. Comme je pense qu'il n'aurait pas fait une grande carrière de cinéaste, il fallait quand même argumenter la chose. Il faut reconnaître qu'il a eu son diplôme de deuxième année vraiment avec une note extrêmement médiocre. Et le film est d'une totale médiocre. Ça remplace le Temesta. Hein. Franchement, c'est chiant comme la mort.
Jim Morrison et le diable boiteux. Une dernière question, Michel Ambarek.
Alors, je crois que cette question t'a déjà été posée dans le cadre de Radio Béton, de savoir s'il n'en restait qu'un. Mais peut-être que depuis...
Il a changé.
Depuis, il y a eu un autre livre qui t'a marqué et qui serait celui que tu emmènerais un jour sur une île déserte.
Ah bah c'est toujours le même, j'ai jamais changé d'avis. Le plus beau livre du monde, c'est L'île au trésor.
Merci.
Merci Michel Ambarek. Et donc nous on fait une petite pause puisque tout le monde est parti aller manger, je pense qu'on va y aller aussi. Et on se retrouve à 14h30. En attendant, on va réécouter des chroniques des poches sous les yeux. On vous propose de rester à notre écoute pour découvrir des auteurs du salon justement qui seront là aussi jusqu'à 19h. On vous dit à tout à l'heure.
Pour lui c'est la plus belle, pour elle c'est lui le plus beau. Pour lui c'est plus que clair que c'est elle qu'il lui faut pour mettre des soleils.